Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour un nouvel épisode du Grand Écran, notre série dédiée au 7e art, avec comme d'habitude deux films au sommaire de ce numéro. Le premier est visible depuis peu dans les salles, entre autres au cinéma L'ABC à Toulouse. Il nous vient d'Espagne et il a pour titre Los Domingos, les dimanches, réalisé par la cinéaste basque Alauda Ruiz de Asúa. En seconde partie d'émission, nous allons revenir sur un film tourné en 1951 par Robert Bresson, Journal d'un curé de campagne, d'après le roman éponyme de Georges Bernanos. Et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau numéro du Grand Écran avec mes deux complices habituels, grand cinéphile devant l'éternel, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Coteaux Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à tous les deux, très heureux de vous retrouver pour évoquer d'abord le film que vous avez retenu ce mois-ci pour votre ciné-parole à l'ABC. Il va avoir lieu le 17 février, mardi prochain, donc à 14h30, après la projection de Los Domingos. Un film réalisé, comme je l'ai dit dans mon introduction, par Alauda Ruiz de Asúa, cinéaste natif du Pays basque espagnol, dont ce n'est pas le premier long-métrage. Louis-Marie, il y en a déjà eu deux auparavant, qui avaient eux aussi été remarqués, plutôt salués par la critique.
Oui, oui, oui. Vraiment, c'est une réalisatrice qui a beaucoup de talent. Elle est aussi célèbre pour une série qui a remarquablement marché, qui s'intitule Querer, aimer. Mais dans ce cas-là, l'amour est un peu violent, puisque c'est une série qui traite du viol conjugal. Et elle a rencontré beaucoup de succès quand elle est sortie. Il y a un film qu'elle a signé qu'on ne connaît pas en France parce qu'il n'est pas sorti sur les écrans français, c'est Lullaby, c'est comme ça qu'on dit. C'est le titre international, le titre original c'est Cinco Lobitos, cinq petits loups.
Oui, rien à voir.
Oui, non, oui, pas grand chose à voir, non. Et vous l'avez dit, Eric, elle est originaire du Pays Basque, il est pas donc surprenant que son film, celui dont nous allons parler, Los Domingos, elle se passe au Pays Basque, en particulier à Bilbao.
À Bilbao, alors elle est originaire de Baracaldo, pour ceux qui connaissent un peu cette région d'Espagne. Les dimanches, Los Domingos, ça a aussi été primé hein, déjà, à deux, même trois reprises, je crois. Il a reçu la coquille d'or du Festival international du film de Saint-Sébastien.
Oui.
C'est déjà au Pays Basque.
Oui.
Et l'Antigone d'or du Festival du cinéma de Montpellier. Et Paul Dima, vous me disiez qu'elle a aussi été primée à Angers.
Oui, le prix du jury du Festival Premier Plan.
Voilà, et puis bien dans quelques semaines, même dans deux semaines, le 28 février, il va y avoir la 40e cérémonie des Goyas, ce qui est l'équivalent des Césars en Espagne. Et ce film est nommé, je crois, à 13 reprises.
13 reprises.
Ouais, voilà, il bat tous les records.
Voilà, c'est oui. Le plus nommé même de l'histoire des Goyas.
Oui, il a déjà rassemblé plus de 700 000.
Ce qui est beaucoup pour l'Espagne.
Hein. Spectateurs en Espagne.
Ouais, oui, ce qui est beaucoup hein, pour l'Espagne. Voilà, donc dans Los Domingos, on retrouve des acteurs espagnols, et vous en connaissez certains, Louis-Marie.
Oui,
certaines.
Certaines, oui, oui. J'ai eu la chance de rencontrer Patricia López Arnaiz, qui a un rôle important, capital même dans le film, on va en parler, c'est le rôle de la tante de cette jeune fille, Ainara. Et Patricia López Arnaiz a une quarantaine d'années et a déjà derrière elle une formidable carrière. On notera son dernier film en titre, c'était en 2023, 20 000 espèces d'abeilles, qui est un film remarquable qui avait été présenté à Cine España, dont on pourra se demander pourquoi il n'avait pas programmé Los Domingos.
On ne pourra pas répondre à cette question,
non,
mais il est vrai qu'on peut se la poser, effectivement. Hein. Alors, les autres acteurs, Patricia López Arnaiz est aussi basque.
Oui, 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 bien sûr.
L'acteur qui joue le père de Ainara, c'est Miguel Garcés, qui lui est originaire de Valladolid, mais enfin je crois qu'il est dans une troupe de théâtre au Pays Basque quand même. Il joue le rôle d'Inaki, donc le père de Ainara, qui elle est jouée par Bianca Soroa, toute jeune comédienne espagnole, dont c'est le premier rôle.
C'est le premier rôle, puisque en fait elle n'a pas été formée spécifiquement au théâtre ou au cinéma. Elle est artiste, enfin elle a été dans un conservatoire de musique, et en particulier elle joue du piano. mais la preuve que le piano mène à tout. Et elle est vraiment remarquable et on voit, ne serait-ce que sur l'affiche, sans avoir vu le film, on comprend combien elle dégage une aura, elle est lumineuse.
Oui, oui, c'est vraiment le terme. Et je sais que la réalisatrice a fait passer beaucoup d'auditions, il y a eu un casting important. Et si elle a choisi cette comédienne, ce n'est pas du tout par défaut, hein, parce que c'était vraiment celle qu'il lui fallait. Il y a aussi Nagore Aramburu qui joue dans ce film la mère prieure,
oui.
L'héroïne de Kerrer.
Oui, de Kerrer, effectivement. Et nous allons en parler du personnage qui est aussi, même si c'est un personnage qui est un second rôle, c'est un second rôle capital.
Très fort. Alors Paul, quelle histoire nous raconte ce film et quels en sont les protagonistes? On y vient.
Alors, c'est l'histoire de cette jeune Aynara qui dit un jour dans la famille qu'elle souhaite rejoindre une communauté religieuse et qu'elle souhaite devenir religieuse. Et alors là, dans cette famille espagnole, basque, on voit les réactions des différents personnages de la famille. Le père qui est veuf, Maïté, sa tante.
La sœur de son père, hein, c'est la tante côté paternel.
Côté paternel. Et puis aussi un autre oncle qui intervient. Et puis les religieuses, mais aussi ses camarades, et ainsi que le prêtre qui l'accompagne dans sa démarche.
Alors, il faut préciser que Aynara, donc à 17 ans, elle est élève dans un lycée catholique. Ce n'est pas une famille non-croyante où on ne pratique pas. Bon, c'est une famille typique de l'Espagne.
Il faut signaler quand même qu'un lycée catholique pour un Espagnol, ce n'est pas tout à fait anormal.
Oui, même si les choses ont quand même changé par rapport à une certaine époque.
C'est évident.
Donc, il se passe cela, mais dans toutes les familles, quelles qu'elles soient, lorsque l'un des membres, jeune en l'occurrence, dit « je veux rentrer dans les ordres », même si c'est une famille catholique très pratiquante, c'est toujours un choc tout de même.
Oui, c'est toujours un bouleversement. C'est-à-dire que là, le film explore les différents points de vue des personnages, hein, soit dans la famille, soit les amis, le petit copain aussi, et on voit comment la réalisatrice prend le soin de montrer les différents points de vue, et chacun est recevable. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, je suis pour un cinéma qui donne la parole et qui permet de se parler à soi-même en disant, tiens, moi, je me situerais comment par rapport à ça, ou qui permettrait aussi d'avancer ensemble. Elle dit, je suis pour un cinéma qui permet la rencontre et non pas qui fait des divisions et des oppositions. Cette réalisatrice n'est pas croyante, elle ne
le revendique
pas, elle le revendique, mais pour une femme qui se reconnaît comme non-croyante, elle fait un travail extraordinaire et respectueux de la démarche d'une jeune qui décide de rentrer dans la vie religieuse.
Oui, alors elle s'inspire d'une histoire vraie jusqu'à un certain point, en tout cas d'une histoire dont elle avait eu connaissance lorsqu'elle était étudiante vers 18-19 ans. Une de mes connaissances a décidé d'entrer dans les ordres. Ce n'était pas une amie intime, mais cela m'a frappé car j'avais beaucoup de mal à comprendre qu'une personne de mon âge prenne une décision aussi radicale, décide de s'enfermer dans un couvent. Cela m'avait intrigué et cette curiosité est restée. Louis-Marie, à quoi elle ressemble sa famille? Parce que c'est un thème central du cinéma d'Alauda Ruiz de Asua, la famille. Et cette famille est un peu bancale, ne serait-ce que déjà à la base, parce que malheureusement la mère est décédée.
C'est important. Alors on ne connaît pas les raisons pour lesquelles elle a disparu.
On ne sait pas depuis quand.
On comprend que le père se débat avec ses filles, puisque Aynara est l'aînée de trois sœurs. Ses deux sœurs sont plus jeunes qu'elle.
Sont plus jeunes qu'elle.
Et puis, autour de cette famille gravite la grand-mère. Il a besoin d'aide. Hein. Il s'en sort plus ou moins bien avec ses trois filles.
La grand-mère, c'est la mère du père, je précise aussi.
On est dans la famille du père.
Voilà, hein.
On est dans la famille du père. C'est-à-dire que la grand-mère, donc, c'est la mère du père. Il y a
la tante, la sœur,
le mari de la tante, dont on comprend que...
Le couple ne va pas très bien.
Eux, ils ont un enfant.
Oui, très jeune.
Oui, un petit gars. Et voilà, ce sont ces personnes, cette famille qu'on retrouve les dimanches. C'est bien le titre du film. Et à partir du moment où elle annonce son envie d'entrer dans les ordres à Aynara, les repas dominicaux vont prendre une toute autre tournure.
Assez tendue.
Et C'est là où on se rend compte que Aïnara, vous l'avez dit, Eric, n'est jamais filmée comme une illuminée et ni à l'inverse comme une victime non plus. Et sa décision est formulée avec un calme désarmant. Il n'y a pas grand-chose à opposer à son envie, sa volonté d'entrer dans les ordres.
Dit, ça m'est tombé dessus, c'est mais comme voilà. Ça, et donc il faut que je fasse avec. Et vous aussi, vous devez faire avec.
Et alors, justement, à partir de là, la famille va se fissurer. Et toutes les certitudes et les postures morales, les postures morales vont se démasquer et les certitudes vont s'effondrer. Il y a vraiment quelque chose, un pan de la famille dont on se rend compte qu'il y aura beaucoup de mal à tout remettre en place. Si on pouvait remettre en place, bien sûr.
Et alors on voit le chemin des différents personnages et aussi beaucoup celui de cette jeune fille qui est accompagnée par un...
C'est ce qui est quand même au centre du film.
Voilà. Et elle a fait, la réalisatrice...
Parce qu'elle rentre dans ce qu'on appelle la période de discernement.
C'est ça. Elle a fait un travail énorme, la réalisatrice, de respecter cette démarche du discernement. Et elle a enquêté auprès de religieuses qui sont rentrées dans la vie religieuse, donc, et aussi de religieuses qui sont sorties.
Qui en sont sorties.
Et donc, elle interroge tout ça en disant, pour moi, Dieu, il n'appelle pas quelqu'un, mais des gens peuvent avoir envie de répondre à...
Enfin, elle dit bien tout de même qu'elle ne nie pas la réalité que des gens puissent entendre un appel.
Oui.
Elle dit, je ne nie pas cette réalité.
Oui.
Ça existe, elle ne met pas en cause la bonne foi des gens qui rentrent dans les ordres, mais il n'empêche que pour elle, qui est non-croyante, évidemment, c'est une interrogation. Donc elle essaye de comprendre en donnant la parole à tous.
Oui.
Et à toutes.
Et à toutes.
Et surtout à toutes.
Et alors, c'est un film sur la foi, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi sur le manque affectif, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui pèse.
Cette famille, il y a un paquet de névroses quand même, quand on regarde bien chez les uns et les autres. Alors le père, c'est assez amusant, parce que lui, au début, il ne prend pas ça si mal.
Non.
Si c'est sa volonté. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que ça va me coûter quelque chose ?
Oui, parce qu'il galère quand même.
Oui, il y a un restaurant.
Il ne marche pas très bien.
Il n'y a pas trop le temps de s'occuper de ses filles. Voilà,
en gros, il y a d'autres soucis.
C'est Maïté qui est plus proche.
C'est un peu elle qui a remplacé la mère. Qui a remplacé la mère.
Ce qui explique aussi comment elle prend ça de plein fouet.
Ah oui.
Parce qu'elle aurait eu une réaction équivalente si ça avait concerné sa fille.
Oui.
Elle est
dans l'incompréhension.
Dans les compréhensions et...
Et dans le soupçon.
Oui.
Elle pense que sa nièce est manipulée par les...
Exactement. Elle pense qu'elle est manipulée et elle s'obstine à essayer de prouver, de montrer à sa nièce combien il est important qu'elle vive des choses de son âge, puisqu'elle est au moment du bac, qu'elle passe le bac, qu'elle suive une formation universitaire, qu'elle découvre le monde, qu'elle voyage.
Parce que c'est une fille qui est plutôt douée. Hein.
Qu'elle voyage, et après, si elle a toujours cet appel qui est toujours là pour elle, et à ce moment-là, elle pourra rentrer dans les ordres si elle veut. Mais pas 17 ans.
En fait,
ans,
la tante est persuadée que si sa fille mène la vie d'une jeune fille comme toutes les autres, elle va vite s'éloigner de ce qui, pour elle, sont les histoires de vie folle. C'est un peu comme ça qu'elle voit les sœurs.
Et cette trajectoire-là qu'elle propose, il faut qu'elle fasse l'expérience de la vie.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et d'être avec des camarades, d'avoir un petit copain.
Découvrir.
Et c'est ce qu'elle défend devant les sœurs, en disant pour que sa décision soit vraiment libre, il faut d'abord qu'elle aille dans la vie et non pas être tout de suite embarquée.
Dans un corps, parce que c'est un ordre très fermé. Ce sont les Bettinas, un ordre espagnol que j'avoue ne pas connaître, mais qui manifestement est très cloîtré.
C'est un ordre cloîtré. Oui.
Ouais.
Oui. Donc c'est très surprenant pour cette tante. Elle essaie de pas de la contrer complètement, mais de dire,
elle demande au père, il faut lui faire voir un psychologue, un psychiatre, un psychologue. Elle lui demande de s'opposer à la décision de sa fille, parce que je crois qu'en Espagne, tant qu'on n'est pas majeur, on ne peut pas entrer dans les ordres si les parents ne sont pas d'accord. C'est ce que j'ai pu voir, et c'est pour ça évidemment que la vie des parents est très importante. Il se trouve que le père, qui est quand même celui qui décide puisque la mère n'est plus là, lui il n'est pas contre.
Oui, il est même, il veut bien.
Compréhensif.
C'est-à-dire qu'au départ il est quand même surpris, puis après il entend sa fille.
Et alors sa fille justement est dans une tranquillité désarmante pour les autres, parce qu'elle dit, mais moi, j'ai rien demandé, enfin, c'est lui qui m'appelle, et j'ai le désir d'entrer, voilà. Et par rapport à ça, ben, il n'y a pas beaucoup d'armes en France.
Oui, parce que quand elle part pour 2 semaines dans ce couvent, visiblement, ce qu'elle vit l'enchante.
Oui.
On peut le qualifier comme ça.
Hein. Oui, on voit la vie donc, des sœurs... l'intérieur du cloître, les prières, les chants, et tout ça, manifestement, lui plaît.
Elle se sent bien. Et alors, vous l'avez dit, Eric, à propos de la démarche de la réalisatrice, Laouda Ruiz de Asua, son film ne tranche jamais frontalement.
Non. Oui.
Et ce qui est fort, c'est qu'il fait naître le doute dans l'esprit même du spectateur.
Oui.
On est dans la même situation que...
Ah, parce qu'on entend tous les points de vue des personnages, et on peut les comprendre si on se met à leur place.
Bien sûr.
Si on arrive à se mettre à leur place... Mais on arrive à la conclusion, ben, c'est quand même elle qui doit décider à la fin. Mmh. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs.
Librement.
On taira la décision ultime de la tante, parce que c'est important aussi.
Oui, c'est la toute fin.
Qui laisse le spectateur complètement pantois.
Ah oui, là, c'est très radical.
Hein, ouais.
Mais elle est radicale d'ailleurs, hein, cette tante, hein, dans ses propos.
Elle est entière, oui.
D'ailleurs, la mère supérieure dit, elle a du caractère, ta tante. Hein.
Oui.
Elle se rencontre à un moment, on ne va pas dévoiler non plus ça.
Mais la mère supérieure ne se laisse pas démonter non plus.
Non,
il y a, une
tout.
Joute entre elles, entre la tante et la mère supérieure.
Parce que la mère supérieure reste beaucoup plus calme.
Oui.
Beaucoup plus calme.
Le contraire serait surprenant.
Oui.
Mais ce que montre aussi le film, c'est cette porosité entre cette quête spirituelle et ce besoin d'amour. On est chaque fois entre les deux. Et c'est ça qui fait toute la force du film. Et c'est justement dans cette façon de montrer ça qu'il touche. Il touche vraiment juste où il faut. Il tape bien.
Ben c'est vraiment un film, je trouve, qui est juste et profond parce qu'il est tourné à hauteur d'homme et même plutôt à hauteur de femme.
Oui, plutôt. Oui.
C'est vraiment ça. C'est beaucoup sur l'humain, je trouve, plus que sur les mystères de la foi. Parce que les mystères de la foi, finalement, c'est ce qui se passe dans la tête de cette jeune fille et ce qui se passe à l'intérieur du cloître. Mais nous, finalement, on n'y a pas accès. On sait que ça existe, on n'y a pas accès. Le plus frappant, je trouve, c'est que dans cette famille, il y a une chose, c'est qu'il est très dur d'avoir la parole.
Oui, c'est compliqué.
Et personne ne s'écoute. Ils ne s'écoutent pas. Personne ne veut entendre les raisons de l'autre. Jamais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la décision de la tante, à la fin, est ahurissante.
Oui, c'est terrible.
Excusez-moi, c'est une basse vengeance, en fait, ce qu'elle va faire.
Oui,
d'une certaine façon. Alors, on l'aurait compris pour son frère, parce que son frère a utilisé l'argent de la famille.
Mais pour ses mauvaises affaires.
Copieusement, et elle se retrouve, elle, dans une situation, elle est un peu, comment dire...
Fragile.
Et frustrée par rapport à ça. Oui. Elle est pas dans une situation financière au point de penser qu'elle puisse être à la rue, mais en fait, elle en veut quand même beaucoup à son frère par rapport à l'héritage familial.
Oui. Un moment important aussi dans le film, c'est après la sépulture de la grand-mère.
Après les obsèques, donc.
Après les obsèques, dans l'église.
Elle prie.
Elle dit.
Elle demande à Jésus.
Et
parle-moi.
Dis-moi
ce que je dois faire.
Oui, dis-moi ce que je dois faire.
C'est une très belle scène.
Et elle dit à ce moment-là, c'est la prière de Charles de Foucault.
Oui. Je m'abandonne à toi.
Je m'abandonne à toi, Dieu, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je suis ton enfant.
Oui, et on voit qu'il lui parle, parce qu'on voit elle sourit, elle pleure, et elle va rentrer après dans les ordres, donc on sait qu'il lui a dit quelque chose, même si on n'entend pas.
Oui.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai appris que pour cette scène, en fait, elle a des oreillettes, la comédienne, et c'est la réalisatrice qui lui parle. Pour qu'elle soit vraiment en situation, elle entend une voix que nous n'entendons pas. Mmh. Et ça l'y pensait quand même.
C'est très, très beau.
Ouais.
Et c'est cette scène simplement... visuel emporte complètement ce moment et cet enfant, cette gamine, elle n'est pas plus gamine quand même, c'est un peu exagéré de la traiter comme ça, 17 ans.
Non, elle n'est pas infantile. Pas du tout.
Mais là, finalement, le spectateur a compris, a une idée même de ce qu'elle peut ressentir.
Oui. C'est très très fort cette scène, il y a quelques scènes fortes comme ça. Alors il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que vous l'avez dit, ça se tourne donc à Bilbao, mais alors attention, hein, on ne voit pas les plages du Pays Basque,
non,
le grand soleil.
Non, c'est pas vivant à l'Espagne.
C'est souvent un ciel gris, il pleut, les décors sont souvent ternes, c'est des rues plutôt moches. Il y a quand même cette ambiance comme ça, là, hein, très grisâtre. Hein. Qui d'ailleurs est tout à fait raccord avec ce qui se passe dans cette famille.
Ouais. Les repas dominicaux ne sont pas joyeux. On se retrouve
non,
le dimanche parce que c'est l'habitude,
c'est
la coutume.
C'est un rituel.
Voilà, exactement.
Mais même par rapport au rituel religieux, les petites sœurs qui font leur communion, mais Parce que c'est comme ça, quoi. Mais la foi n'est pas forcément engagée dans ce rituel. On continue à faire comme si, mais il y a des failles.
Oui, alors bon, ce qu'on dira, c'est que la fin est très ouverte. Hein. Chacun se fera son idée. On est vraiment complètement libre. La réalisatrice n'impose absolument rien à chacun de recevoir ce film comme il le veut. On ne va pas en dire plus, mais bon, vous aurez compris que nous avons beaucoup aimé ce film et nous vous conseillons d'aller le voir à l'ABC à Toulouse ou dans une autre salle de notre région où Los Domingos, les dimanches, est à l'affiche. Je rappelle que vous pouvez échanger avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 17 février, lors du ciné-parole qu'ils animent à l'ABC après la projection du film qui débute à 14h30. En seconde partie d'émission, nous allons revenir sur Journal d'un curé de campagne. Le film de Robert Bresson, d'après le roman éponyme de Georges Bernanos, pose dans les médias en écoutant un extrait de la bande originale de Los Domingos, composée par David Cerejón. Il a pour titre « Heitor Mena ».
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de ce numéro de Vivante Église, toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et de Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Cette seconde partie est donc consacrée à Journal d'un curé de campagne, film réalisé en 1951 par Robert Bresson, d'après le roman éponyme de Georges Bernanos, paru en 1936 et distingué la même année par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Le film de Bresson avait reçu, lui, le prix Louis de Luc, et il est considéré, à juste titre, il me semble, comme l'une des plus grandes réussites de cet immense cinéaste. Paul, je vais vous laisser rappeler l'intrigue et les personnages principaux, et puis vous nous ferez part ensuite de ce que vous en avez pensé lorsque vous l'aviez découvert et en le revoyant avant cette émission.
Alors, le journal d'un curé de campagne inclut plusieurs personnages. Ce jeune prêtre, qui est souffreteux, on pourrait dire, de par son héritage familial, de parents alcooliques, voilà, et qui arrive dans un village perdu, au fond de...
Dans l'Artois.
Au
fond, la famille paternelle de Bernanos, voilà, était de l'Artois.
C'est ça. Et qui se trouve très démuni face à ses paroissiens ou aux habitants du village, différents d'ailleurs, aussi bien par le châtelain du coin avec lequel il essaie de lancer des projets, mais qui reste très distant, son épouse avec laquelle il aura un long accompagnement, l'épouse du comte. Et puis, il est en butte aussi aux enfants du catéchisme qui se moquent complètement de lui.
Oui. Il y a droit, hein, chaque fois.
Surtout les petites filles
qui montent des coups un peu pendables. Alors, ce jeune prêtre, très seul, a quand même la compagnie d'un collègue qui, lui, est brillant, mène sa paroisse, une grosse personnalité.
L'abbé de Torcy.
Et entre les deux, il y a un échange très intéressant. C'est-à-dire que le prêtre, plus à l'aise, menant bien ses ouailles, écoute le jeune prêtre.
Et il n'arrive pas du tout à se faire accepter de ses paroissiens.
Oui.
Il ne les comprend pas, d'ailleurs.
Il ne les comprend pas. Et ce prêtre plus âgé est en admiration devant ce jeune prêtre qui est un peu torturé, qui ne sait pas comment faire.
Mais qui se nourrit bizarrement.
Oui, alors de pain et de vin.
Et de sucre.
Et de mauvais vin en plus. Et de mauvais vin.
Qui n'arrange pas sa santé.
Non. Et ça va très mal se terminer pour lui. Mais dans cette figure du curé de campagne, il y a la force et du doute et de la foi. Et il y a un personnage très important, c'est son carnet.
Oui.
Son journal. Et là... Robert Bresson...
Parce qu'on entend le narrateur, en fait, la voix
c'est ça.
Du prêtre,
voilà.
on lit le journal.
Qui lit ce qu'il écrit.
Oui.
Et ça, c'est très très fort.
Et on le voit écrire.
C'est des toutes petites séquences, avec fondu au noir à chaque fois. C'est d'une sobriété, on ne peut pas faire plus.
C'est à la Bresson.
Et ça va à l'essentiel. Qu'est-ce qui se joue, là, pour ce jeune prêtre, dans son rapport avec... les châtelains, la femme, la fille, l'institutrice privée de la fille, qui, ben voilà, il y a une relation proche.
Avec le papa.
Avec le papa, voilà.
Ben oui, trompe.
Mais en fait, Bresson décentre un peu, et l'utilisation, vous en parliez, de la voix off est importante. C'est pratiquement le protagoniste principal, plus que le curé lui-même.
Oui, tout à fait.
Cette voix off, et c'est un exemple d'utilisation de la voix off qui peut être fait un petit peu n'importe comment, souvent dans les films, mais en tout cas pas dans celui-ci.
Là, c'est remarquable.
C'est extraordinaire.
Oui.
Truffaut, qui admirait beaucoup Bresson, avait dit à propos de ce film que chaque plan de Journal d'un curé de campagne est aussi vrai qu'une poignée de terre.
Oui. C'est dire en même temps la rudesse. On est dans un autre monde.
Des gens auxquels on a affaire, ce sont des gens souvent très durs. Ouais. Il y a beaucoup de haine entre eux.
Oui.
Hein. Les gens se détestent, les gens se trompent, les gens mentent. Enfin, qu'est-ce que nous montre Bernanos ? Parce que c'est au centre de toute son œuvre, de toute façon. C'est un monde complètement rongé par le mal.
Oui.
Rongé.
Et là, il y a un témoin de la quête de Dieu, quoi. Hein, ce prêtre qui a pour projet de ramener à Dieu... ces personnes qui ont des vies tout à fait étrangères à ça. Et par sa faiblesse, d'une certaine façon, il réussit à toucher les gens qui se posent la question. Alors, aussi bien le vieux prêtre qu'il va consulter, aussi bien la châtelaine, et il les mène jusqu'au bout du cheminement de foi, alors que lui est dans le doute. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire que ce prêtre dont on peut se dire « Oh là là, mais il ne va pas tenir la route » et tout, eh bien, il fait son chemin.
Ben, d'autant plus qu'il est malade.
Il est malade, il va mourir. Il apprend à la fin qu'il est, il est condamné par un cancer. Voilà. Et il meurt, et ce n'est pas anodin, chez un camarade de séminaire, prêtre, qui a quitté les ordres. Et à l'époque, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Enfin, c'était le défroqué, c'était...
Ah bah, on était montré du doigt.
Complètement, il fallait s'en cacher. Hein.
Justement, ce qui est aussi très fort dans le film de Bresson, c'est la restitution de l'œuvre de Bernanos, du livre de Bernanos, c'est cette façon de montrer que le paradis sur Terre est impossible. Tout ce qu'on voit à l'image, ces fenêtres, c'est boueux, c'est triste, c'est sale.
Ah, c'est, alors le film est en noir et blanc. C'est 51, il aurait pu être en couleur.
Oui.
Il est en noir et blanc. Et tout est en noir et blanc, y compris les âmes qu'on peut croiser. Oui. C'est plutôt des âmes grises d'ailleurs que des
mais
âmes.
Mais malgré tout, le seul repos qu'on puisse avoir, c'est la pensée. Finalement, c'est... Et quand on entend la voix off qui parle, c'est pas pour faire avancer l'intrigue. C'est, il revient sur ce qu'on a vu juste avant. Alors, on se dit, oui, bon, bah, il s'en sortira pas.
Oui, parce qu'il dit qu'il peut plus prier. Alors, le vieux curé lui dit, mais il faut prier davantage et tout. Et on le voit plusieurs reprises, ce prêtre, se forcer à prier et à... Parce que ben il a l'impression que ben, Dieu lui parle plus.
Et... Ouais, elle est pas dans Don Camillo là.
Ah non, pas du tout, non.
Il parle pas avec Dieu tous les jours.
Non, non, non. Et il ne lui répond pas systématiquement non plus.
Ah non plus, oui. Oui, sa vie est rude. Hein.
Ouais, sa vie est rude en permanence même, parce qu'il a aucun moment d'apaisement.
Non.
Aucun.
Même à titre personnel, et pas simplement à cause de l'ingratitude de ses paroissiens qui le prennent pour pas grand-chose. Quoi. C'est un pauvre
petit curé,
un petit curé perdu, de rien du tout.
Dans une campagne perdue elle-même.
Oui, ouais.
Il est, effectivement, il est perdu. Il se débat dans cette situation et a beaucoup de mal avec ça. Frappé, donc, on l'a dit, par l'atavisme de sa mère alcoolique. Lui, évidemment, vous l'avez dit, Paul, un régime un peu particulier, fait de vin, de mauvais vin, de pain et de sucre, mais de toute façon, il était déjà endommagé par l'héritage génétique.
Ouais. Oui, oui. Mais il se nourrit de pain et de vin, ce qui n'est pas anodin, bien sûr, pour un prêtre et pour un chrétien en général. Et on a le sentiment que lui se vide de son énergie au fur et à mesure qu'il arrive quand même à retourner certaines de ses ouailles, et notamment cette comtesse qui va ramener vers la foi et qui malheureusement va mourir aussitôt.
Oui.
Oui.
Oui. Parce que sa vie, cette femme, est pas facile non plus. Hein. Elle sait que son mari
la trompe
éhontément et dans sa maison. Sa fille lui en veut beaucoup d'être résignée et de... Voilà.
Alors en fait, elle a perdu la foi, cette comtesse, parce qu'elle a perdu aussi un jeune fils.
Alors, elle a perdu un
très
enfant.
Jeune.
Elle a perdu un enfant.
Elle s'en est jamais remise.
C'est ce qui l'a détachée de la religion, parce qu'elle s'est retrouvée face à ce deuil qu'elle ne comprend pas.
Oui.
La disparition de son fils.
Et ce jeune prêtre va l'accompagner et l'inviter. Et elle se soumet, là. Il la bénit. Et pour qu'elle retrouve la paix.
Oui.
Et elle meurt juste après.
Alors Bresson, il y a une chose qui respecte totalement l'esprit du roman de Bernanos, c'est-à-dire qu'il ne juge pas du tout ses personnages.
Non.
Il n'y a aucun effet mélodramatique, il n'y a pas de psychologisation forcée, qui n'a rien à faire ici. Là encore, c'est un peu la relation qu'on peut trouver avec le film dont on a parlé en première partie d'émission. Le cinéaste nous laisse complètement libre. Mmh. De nous faire notre avis sur tous ces personnages, notamment sur ce prêtre dont on se demande, le pauvre, comment il va pouvoir s'en sortir.
Mmh.
On a presque envie de l'aider, de rentrer dans le film pour l'aider.
Oui, c'est exactement ça. Il comprend pas pourquoi les gens l'aiment pas.
Oui.
Cette hostilité.
Oui, pour lui, ça, c'est un mystère. Oui.
Et la méchanceté non plus. Oui. Il comprend pas tout ça. Mais pour autant, Bresson ne le montre pas comme un martyr.
Non.
Il est dans cette incompréhension.
Bah, il fait front quand même.
Alors Il marche là, au milieu de ses ombres.
Alors, ni martyr, ni revanchard.
Non plus.
Hein, il n'entre jamais...
Non, parce qu'il n'a jamais une parole...
Dans la condamnation des gens. Il essaie de leur ouvrir une autre voie, mais on le prend pour un imbécile. Et il n'a pas de colère contre eux, pas du tout. Et la fin de sa vie aussi, il illustre ça. Il va à Lille pour des examens et il apprend qu'il a un cancer et qu'il est condamné. Et il meurt chez cet ancien prêtre. Et ça, c'est pas neutre aussi. C'est-à-dire que... Et c'est ce prêtre, cet ancien prêtre, qui écrit au curé de Torcy, si. Qui était le prêtre dont on parlait, là, solide, bien...
Qui lui rend visite de temps à autre.
Il lui raconte la mort de...
Du curé d'Ambricourt, parce qu'il n'a pas de nom, ce curé. Hein.
Non, il n'a pas de nom.
Ça veut dire que ça peut être n'importe lequel. Hein. Il n'a pas de nom.
Un jeune curé
lambda. Il n'a même pas un nom.
Non, ça c'est très fort.
Il n'a pas d'identité, d'une certaine manière. Mais peut-être parce qu'il a le nom, c'est quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire.
Oui. C'est là, me revient la parole de Saint-Paul, mais Bernano, c'est très lié à ça aussi. C'est alors que je suis faible que je suis fort.
Fort, oui.
Parce que sa force ne vient pas de lui.
Oui. Alors, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas cité les acteurs, parce que là, Bresson, d'ailleurs, il va plus en démence, si je puis dire. Ensuite, il prend des comédiens très peu connus.
Oui.
Et après, il prendra même des amateurs pour ses films suivants. Alors, c'est loin d'être son premier film, là, déjà. Je ne sais plus, 4 ou 5 longs métrages, déjà.
Il en a déjà au moins 4 avant.
Oui, voilà. Avant. Par contre, celui qui joue le prêtre, c'est Claude Lédu.
Oui.
Qui deviendra célèbre, enfin plus célèbre, en tout cas, pour certains d'entre nous, ça va, faut avoir un certain âge quand même.
Oui, c'est vrai.
Vont se rappeler de quoi je parle, c'est que ça a été le créateur, le producteur de Bonne Nuit les Petits.
Et oui.
Et c'est lui qui faisait la voix du marchand de sable.
Oui,
le marchand de sable, c'était Claude Lédu.
C'était ce passage, ce petit moment de 5 minutes, juste
le soir,
après
avant que les enfants aillent se coucher.
Exactement, juste après les infos de 20h, le journal de 20h qui était un rituel aussi à la télé.
Passer de Bresson, Bernanos à Bonne Nuit les Petits, c'est un beau parcours.
C'est un grand écart en tout cas.
C'est un beau parcours.
On parle du marchand de sable, mais le plus célèbre c'était Nounours.
Nounours, bien sûr.
Nounours, oui.
Nicolas Epimprenel et Nounours.
Oui.
Qui lui descendait, lui, du nuage.
Voilà, et donc les autres comédiens sont... Tout est très juste dans ce film. Ah, oui. À la Bresson, il n'y a rien en trop.
Oui.
Certains, bon, faut trouver que c'est un cinéma austère. Oui, c'est un cinéma austère. Mais le sujet l'est aussi.
Oui. On ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas le traiter autrement non plus.
Non, c'est austère et sobre, mais d'une sobriété qui permet de dire beaucoup de choses sans beaucoup d'effets. Et ça, c'est intéressant aussi... On voit ce prêtre qui se force à coucher sur le papier tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est son chemin aussi qui fait... C'est pas qu'une introspection, c'est qu'est-ce qui se passe chez moi, où je vais...
Mais il se questionne autant sur ses ouailles, sur ses paroissiens,
que sur lui-même.
Et même au moment où... il est en train de mourir et il pense toujours qu'on peut, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on peut être secouru.
Oui,
jusqu'à la fin, il ne se départira pas de cette pensée-là.
Oui, et il dit dans les paroles de son compagnon qui écrit au prêtre qu'il rencontrait, il dit ses dernières paroles, c'est...
Tout est grâce.
Tout est grâce.
Oui, ce sont les dernières paroles du roman et du film, parce que le film est vraiment... complètement fidèle au roman de Bernanos.
Ouais, c'est très
bien. Là-dessus, c'est rare qu'un film soit à la hauteur d'un grand livre.
Oui.
C'est très, très rare.
Oui.
Et là, pour le coup, il y est.
Oui.
Avec la touche bressonienne, après la touche bernanosienne.
C'est une belle réussite.
Ah oui, moi je trouve que c'est...
Austère, certes, mais une belle réussite.
Je trouve que c'est un film vraiment magnifique. Eh bien, nous allons conclure cette émission sur ce « Tout est grâce ». Je vous laisse méditer sur ces trois mots. Je rappelle que le Ciné-Parole que vous animez au cinéma L'ABC à Toulouse, mardi prochain, 17 février, est consacré à Los Domingos, les dimanches, le beau film d'Aloda Ruiz de Asua. Il y a un échange avec le public après la projection, celle-ci commençant à 14h30. Je rappelle également à nos auditeurs cinéphiles le rendez-vous qu'ils ont chaque mercredi à 19h, en direct sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Enzo Basile. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.